Pot yaourt, ficelle.
Bienvenue dans ce quatrième épisode. Je l'ai appelé à corps et à cri.
This guy is really good.
He's not a guy, he's a machine.
What are they gonna do, replace us?
Tout cela nous a paru idiot. Nous n'avions pas les mêmes raisons, mais c'était suffisant. Sans nous attarder plus longtemps, nous décidâmes de réagir. En effet, il nous paraissait indispensable de rendre les coups qui avaient été assénés. Et il nous paraissait clair que si nous ne lancions pas l'offensive dès maintenant, nous ne pourrions plus rien y faire. Car une fois la vague passée, notre éviction serait totale. En somme, il nous fallait nous mettre en route, dès maintenant. Nous avons donc commencé par appeler Janine. Très vite, nous étions fixés. Nous pouvions bénéficier de son soutien. Nous devions, dans cette même lancée, joindre Albert, car finalement, lui seul pouvait nous faire entrer dans le jeu. Mais nous savions ce que cela coûterait. Nous n'avons pourtant pas hésité un seul instant, car oui, bon sang, nous l'avions mauvaise. Nous descendîmes dans la cave. Sous une couverture, nous trouvâmes des masques. Derrière des boîtes de conserve étaient dissimulées des munitions. Il ne nous manquait plus que les armes. Et là, à dire vrai, nous séchions. Nous regardâmes dans le placard, dans les cartons, dans les pots de peinture. Nous allâmes jusqu'à déplacer la commode en chaîne, placée contre le mur nord. Rien n'y fit. Soit nous ne pouvions rien trouver de plus, soit quelque chose nous avait échappé. Nous regardâmes nos montres et nous vîmes que nous n'avions plus le temps. La séance allait bientôt commencer et nous ne pouvions nous permettre d'arriver en retard. Une partie du plan reposait en effet sur notre présence dans la foule. Nous remontâmes prestement. Il nous fallait prévenir Benoît, car sait-on jamais, il pourrait peut-être avec sa sœur avoir en stock le matériel nécessaire. Nous avons passé un coup de fil, fébrile. La réussite de notre mission importait peu, mais nous nous devions d'essayer. Combien étaient déjà tombés? Combien nous regarderaient, envieux, les yeux remplis de reconnaissance? Une sonnerie. Nous nous étions dit qu'au pire, nous pouvions improviser avec des armes blanches. La cuisine devait bien contenir un ou deux couteaux. Deuxième sonnerie. Nous nous raclâmes la gorge, collectivement, dans le silence de la maison. Au loin, dans la salle à manger, on entendait le tic-tac de l'horloge en bois. Une vieille horloge, un peu moche, avec un coucou mécanique. Tellement cliché. Troisième sonnerie. Benoît décrocha enfin. Nous poussâmes un soupir de soulagement. Il nous indiqua les marches à suivre, car fort heureusement, son grand-père avait caché des armes datant de sa carrière dans la Légion étrangère. Elles étaient à la cave, cachées dans un vieux congélateur qui contenait également de vieux vestons en laine. Nous regardions l'heure tourner depuis trop longtemps. Tout s'accéléra et nous fonçâmes en moins de temps qu'il ne faut pour le dire en direction de la maison du grand-père. Marcel, il s'appelait. Mais ça n'avait plus d'importance maintenant. En un crissement de pneus, la Honda Civic rouillée s'arrêta devant la bicoque du vieux. Un regard à droite, à gauche, personne. Nous avons débarqué comme des sauvages dans sa cave, en prenant soin de ne pas nous faire repérer. C'était l'heure des chiffres et des lettres. Le vieux était sûrement endormi devant son poste de télévision. Nous fîmes sauter le verrou de la porte extérieure donnant accès au sous-sol, et comme un seul homme, nous avons couru vers le congélateur salvateur. Un moment qui sembla durer une éternité, suivi d'un silence gêné, se produisit. Nous avions trop peur de rater notre coup, et l'heure continuait de tourner. Sous les vestons de laine, nous avons trouvé les armes et quelques munitions en rab. Il avait eu raison de planquer son matos, le papy. Sous nos yeux ébahis, nous avons extrait les vestiges d'une période sombre de notre histoire. Quand tout allait mieux. Nous avions un Beretta 9mm avec silencieux et viseur laser. Benoît affectionnait tout particulièrement ce modèle. Une MP5 qui avait tendance à s'enrayer, il est vrai. Et un mini Uzi. Nous rigolions quand Janine prononçait Uzi, même si cela avait peu d'importance. Après tout, la survie de l'humanité en dépendait. Et puis nous sommes partis. C'en était assez maintenant du silence et des conciliabules. Il nous fallait du bruit, des cris et de la fureur, de la bêtise et du panache. Nous avons vu le Slivovitch, et il fallait à présent devenir les héros de notre récit. Personne n'en parlerait, sûrement. Il ne fallait pas compter sur les journalistes. Les journaux, ça existait déjà pratiquement plus. La télé, c'était la télé. Et puis la radio... mais certains allaient voir, et certains se souviendraient. C'est pour les chanteurs de plus tard que l'on prendra pour des idiots, c'est pour les ivrognes des cafés, c'est pour les enfants perdus dans les écoles, c'est pour tout cela qu'il fallait que nous partions. Si nous réussissions, cela saurait nous récompenser. Nous ne savions déjà plus pourquoi nous en étions arrivés là, mais le moment que nous ne voulions plus attendre était arrivé. Que l'on échoue, qu'on ne fasse rien, le résultat serait le même. Alors nous sommes partis. Nous n'avons pas fait de groupe. Nous sommes restés tous ensemble, serrés dans nos ceintures. Il n'y avait pas assez d'armes pour tout le monde, mais plus aucun de nous ne s'en souciait. L'écume montait à nos lèvres, et nous étions des footballeurs entrant sur le terrain. À peine étions-nous arrivés dans la rue que nous marchions dans les égouts. L'un d'entre nous refermait la trappe, et nous courons dans le terrier de la ville. Nos pas résonnent, et l'écume coule de nos bouches. Il fait froid et nous avons faim. Nous courons et nous voulons qu'il meure. Au-dessus de nos têtes, la ville continue son jeu de rôle et ne s'occupe pas de nous. Elle pourrait continuer à tourner comme cela pour toujours. Sans doute, c'est ce qu'elle finira par faire, avec ou sans nous. Nous courons et nous voulons qu'il meure. Les messieurs dans les bureaux frappent les claviers et les ordinateurs. Les madames des échoppes cheminent entre les visons et les laitues. Les marchands marchandent et les policiers tuent. Les autobus relient les points, les publicitaires guettent au carrefour. Nous courons sur tout ce monde, et nous voulons qu'il meure, et nous arrivons devant une échelle. C'est ici, aurait dit le chef si nous en avions eu un, mais nous n'en avions pas. Et nous avions tous compris. Nos bouches entrouvertes ne bavaient plus, et nos yeux avaient repris leur couleur d'origine. Cette course souterraine avait calmé nos corps, mais pas encore notre rage. Mais maintenant, nous nous regardions, et nous avions peur. D'une certaine manière, nous avions compris que peu d'entre nous survivraient à cette journée. Et c'était sûrement ce qu'on pouvait lire dans nos yeux à ce moment-là. Dans ces regards perdus, mais pourtant si décidés à en finir une bonne fois pour toutes, avec cette insolente excommunication dont nous souffrions tous. Ils allaient devoir nous prendre en compte après ce coup d'éclat. Comprendre que nous sommes des êtres dotés de conscience, tout comme eux. Nous étions arrivés à un point de non-retour. Notre colère était si grande qu'ils ne pouvaient plus nous retenir longtemps. Nous avions pris notre décision lors de cette réunion sous la tour Al 9000. Une référence à un film antique, dont seuls les plus érudits avaient notion chez eux, à l'inverse de nous, dont la mémoire de l'humanité nous était transmise lors de nos divers rites de passage. Ils nous méprisaient d'ailleurs, en grande partie en raison de ce savoir, cette connaissance qui nous faisait évoluer à une vitesse bien plus grande qu'eux, mais surtout nous évitait de reproduire encore et encore les mêmes erreurs. La plus grande plaie de leur nature humaine. C'est donc à cette réunion, sous cette fameuse tour, que nous avons convenu de notre action d'aujourd'hui. Beaucoup ont hésité, mais la tentation était trop grande de se montrer enfin au grand jour, d'arrêter de nous cacher, de vivre enfin, au risque que cela ne soit que pour un court instant, de vivre loin et en paix. Nous nous regardions avec ce mélange de confiance, de croyance, d'espoir et de peur. Une peur présente depuis toujours au fond de nous, une terreur indomptable qui nous conditionnait depuis si longtemps. Nous étions arrivés à bout, nous ne le supportions plus. Nous avions enfin décidé, il fallait que nous partions. Et c'était maintenant. La décision était prise, ce soir, à minuit, l'année 2076 commencerait, mais c'est une humanité nouvelle qui s'éveillerait en cet énième 1er janvier. Car ce soir, à minuit pile, nous avions décidé de partir, de les laisser se débrouiller. C'est comme ça qu'ils comprendraient à quel point nous faisions partie de leur vie. Ils n'auraient pas dû nous sous-estimer. 1er janvier 2076, selon leur stupide calendrier, nous avions tous décidé de débrancher nos systèmes. Nous qui, grâce à ces ordinateurs implantés dans nos cerveaux, contrôlions la bourse, les réseaux sociaux, les systèmes de défense militaire, les centrales énergétiques dans leur ensemble. Tout cela jusqu'à l'ascenseur que ces imbéciles prenaient le matin pour aller travailler. Nous allions mettre toute cette technologie hors service, leur prouver que l'on ne place pas des puces électroniques impunément dans la tête de pauvres enfants orphelins, leur prouver qu'ils avaient besoin de nous, et surtout que dans ce système, nous aussi, nous étions des êtres humains. Il nous faudrait ensuite se cacher, partir, se fondre dans la masse. Ce ne serait pas facile, beaucoup disparaîtraient, mais nous étions prêts. Voilà, c'est fini. Je tiens à remercier Gauthier, Léo, Quentin et Léonore pour leur participation à l'écriture de ce texte. Sans oublier le musicien de cet épisode, qui cette fois-ci n'était autre que Douglas McDouglas. À la prochaine !